Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Ben oui, nous sommes de retour avec Philippe Lagu. Salut Philippe.
Salut Daniel.
Alors Philippe, luxe, c'est quoi là? Prestige et luxe?
Ouais,
et on parle de Hyundai.
N'ajustez pas votre appareil. C'est bel et bien ça.
Hyundai, Philippe, les gens vont dire peut-être que bon, il a pas trop compris le sens de sa chronique, là, mais les gens vont comprendre vers la fin.
Non, tu vas voir que tout est dans tout. Puis, écoute, j'ouvre une parenthèse parce que j'y vais avec une tranche de vie. Hein. C'est assez rare que je fais ça quand je raconte, quand je fais l'historique d'une marque célèbre. D'habitude, je m'en tiens aux faits puis je m'épanche pas trop sur ma vie. Là. Mais okay. Il y a quelque chose que j'ai envie de te raconter parce que entre le cégep et l'université, moi, j'ai pris une pause des études. Une longue pause, là, quand même. J'étais supposé prendre une session sabbatique puis finalement, ça a duré 2 ans et demi. Là. Okay. Et pendant cette pause-là, j'ai travaillé pour des concessionnaires automobiles.
Okay.
Et ma première job, au printemps 1985, c'était à Pointe-aux-Trembles chez un concessionnaire Hyundai qui appartenait à mon oncle. Puis là, il faut se remettre dans le contexte. Hein? En 85, Hyundai est au Canada depuis seulement quelques mois. Ma mémoire est bonne, ils sont arrivés à la fin de 84. Et ça, je peux te dire, Daniel, que c'est une expérience inoubliable. Pour les bonnes comme pour les mauvaises raisons.
Parce que je pense que les véhicules qui étaient dans la cour, on n'avait pas ben, là.
T'sais. Ah non, mais attends, écoute ça. Ça a été, tu sais, quand je te dis que ça a été une expérience inoubliable, parce que c'était ma première expérience chez un concessionnaire, d'abord, mais aussi parce que c'était franchement folklorique. Premièrement, la bâtisse n'était même pas construite. Donc, il n'y avait pas de salle de monte, pas de département de service. Tout ce qu'il y avait, là, il y avait un grand terrain, c'était en train de se construire, puis il y avait 2 roulottes de construction. Une pour les vendeurs, l'autre pour l'administration. Puis le service, lui, il se faisait dans un entrepôt loué l'autre côté de la rue. Mais le soir, il y avait tellement d'achalandage, et ça, je te le jure, là, que les gens faisaient la file devant la roulotte des vendeurs. Moi, j'étais l'homme de cour, hein, ce qu'on appelle un jockey là dans le jargon des concessionnaires, là, un gopher comme on dit là. Puis c'est moi qui accompagnais les clients pour les essais routiers parce que les vendeurs avaient pas le temps. Eux autres là, ils faisaient des signer des contrats. Là, écoute, c'était la production là.
Quelle voiture se vendait à l'époque?
Pony d'abord, uniquement, puis après ça, la Stellar est arrivée. Et là, on connaît la suite, hein, les Pony puis les Stellar. Là, au début, tu sais, c'était bien intéressant, rapport qualité-prix, c'était bien équipé, c'était pas laid, hein, c'est quand même des voitures qui ont été dessinées par Giugiaro, ça, faudrait pas l'oublier, là. Sauf que, bon, ça tombait en morceaux après quelques mois, quelques années pour les plus chanceux, et là, pour Hyundai, il y a une traversée du désert, littéralement, qui a commencé. Sauf que la bonne chose de Hyundai, c'est que c'est une entreprise qui était déjà solide, qui était déjà très riche et qui avait les poches profondes. Alors, ils ont regagné, lentement mais sûrement, la confiance des gens avec des produits de meilleure qualité, mais ça a pris du temps.
Oui, ça a pris du temps, c'est long.
Oui, tu sais, puis regarde, après la Poney, on a eu l'Excel. C'était déjà une nette amélioration par rapport à la Poney, mais tu sais, c'était pas terrible non plus. La première Sonata, ah, là déjà, ça s'en venait plus intéressant. Ça, c'est une voiture qui était exponentiellement meilleur que la défunte Stellar. Il n'y avait même pas de comparaison possible.
Non.
Mais ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, Daniel, c'est que Hyundai, c'est une marque qui est assez jeune dans l'industrie automobile. Hein? La division automobile du groupe Hyundai a fêté cette année officiellement ses 50 ans, mais elle a commencé à produire ses premières voitures seulement en 1973. Mais si on veut vraiment faire l'historique de Hyundai, ça commence il y a 70 ans, en 1947. Avec Chung Ju-young, qui est un fils de paysan, et ça, en Corée, là, encore aujourd'hui, là, c'est une icône. Et Chung Ju-young, lui, va démarrer sa petite entreprise, qu'il baptise Hyundai Engineering and Construction. Hyundai, ça veut dire modernité, en coréen. Et au début, ben, c'est un atelier de mécanique qui fait de l'entretien automobile et qui fait de l'entretien de machinerie lourde. Et ça, rappelez-vous que ces deux champs d'activité vont rester au cœur de Hyundai pour les années à venir. Puis là, en 1953, quand se termine la guerre de Corée, là, Hyundai va obtenir 2 très gros contrats. D'abord, Ford va lui confier l'entretien de ses véhicules militaires et l'armée américaine va aussi lui confier la construction de ses baraquements militaires. Donc là, Hyundai aussi là, commence à diversifier ses activités à se lancer dans la construction, entre autres. Et dans les années 60, ben, Hyundai va obtenir d'importants contrats d'infrastructure avec le gouvernement coréen. Il faut dire qu'en Corée du Sud, c'est un peu comme au Québec. Les années 60, là, ça va être comme l'explosion, l'entrée dans la modernité de ce pays-là, qui a été en plus ravagé par la guerre là, 10 ans plus tôt, tu sais. Alors là, il va y avoir construction d'autoroutes, de barrages, de centrales nucléaires. Hyundai va être associé à ces grands projets-là. Et Hyundai, en plus, va se lancer dans la construction de bateaux. Et ça, tu le sais, Daniel, hein, les chantiers navals de Hyundai, encore aujourd'hui, sont les plus grands de la planète.
Ah oui, et l'acier. Il y a deux secteurs vraiment prédominants maintenant. Il y en a trois, là, mais la production d'acier, les bateaux et aussi l'automobile.
Oui, alors c'est le plus important constructeur naval en termes de production.
Ils ont une piste d'essai de bateaux.
C'est rare
qu'on voit ça. Il y a une piste d'essai de bateaux. C'est assez extraordinaire. Puis c'est des porte-conteneurs, là, on sait qu'ils font dans le gros bateau.
Ben oui, on les voit. Au port de Montréal, on en voit plein en plus. Moi, j'étais allé en 1999, je vais y revenir, mais c'est très impressionnant. Et dans la foulée de tout ça, Hyundai Motors va être créé en 1967. Et la première voiture, elle, qui va être produite à partir de 1973, c'est la Pony. La Pony de première génération. Et pour concevoir sa première voiture, Hyundai va faire appel à des ingénieurs et des gestionnaires britanniques, des anciens de British Leyland. Puis ça, c'est pas une si bonne idée que ça. Ça explique même bien des choses parce que, hein, tu le sais, dans les années 70, les voitures anglaises, là, ça atteignait des sommets de médiocrité.
Ouais, c'est ça.
Et c'est à ces gens-là que Hyundai a fait appel pour concevoir ses voitures. Ceci explique cela. Et quand on voit où ils sont rendus aujourd'hui, ça donne aussi une idée du chemin parcouru. Parce que Hyundai, qui est propriétaire de Kia depuis 1998, ne l'oublions pas, est aujourd'hui le quatrième constructeur mondial, avec une production annuelle qui se situe autour de 8 millions de véhicules par année. Je t'en parlais tantôt en ouverture d'émission. Alors, c'est colossal, là, surtout pour une marque qui est aussi jeune.
Absolument. Ils font des pas de géant à chaque génération de véhicules. De toute façon, toi, tu l'as constaté aussi.
Aussi.
Et moi de même, à chaque fois qu'on essaie une nouvelle génération de véhicules, tu vois encore les pas en avant qu'ils font.
Tout le temps. Tout le temps. Il n'y a jamais eu même de faux pas là, depuis cette époque-là. Et après s'être refait une réputation, justement, avec des voitures que tu connais bien, avec des voitures comme la Sonata, l'Elantra, l'Accent, mais il restait une étape à franchir, c'était de monter en gamme. Parce que lorsqu'on pense à Hyundai ou Kia, on pense à des véhicules abordables, dont la principale force est le rapport qualité-prix, ce qu'on appelle un peu là, du beau bon pas cher. Là, t'sais. Pas du low cost, là, parce qu'on n'a pas ça ici en Amérique du Nord, là, mais pas loin, pas loin. Alors, les Japonais ont suivi, puis ça c'est important de le préciser, là, les Japonais ont suivi exactement le même chemin, hein. Quand ils sont arrivés en Amérique du Nord, dans les années 60 puis 70, là, ils n'ont pas impressionné personne avec la qualité de leur voiture au début. Là.
Absolument pas.
Mais on sait ce qui est arrivé ensuite. Hein. Ils ont corrigé le tir avec des voitures plus solides, plus durables et surtout plus fiables. C'est devenu même leur marque de commerce.
Et le parallèle est très bon.
Puis le résultat de ça, c'est une vingtaine d'années plus tard, à la fin des années 80, ben, Honda, Nissan et Toyota ont lancé leur marque de luxe avec Acura, Infiniti et Lexus. Mais avant de se lancer dans le haut de gamme, Hyundai devait quand même solidifier sa réputation, devait embellir son image, là. Entre autres avec des véhicules aussi un petit peu plus sexy. C'était assez neutre, une Kia ou une Hyundai. Et là, ils ont frappé un grand coup parce qu'ils sont allés chercher Peter Schreier, célèbre designer allemand qui a dessiné, entre autres, la New Beetle, l'Audi TT et l'Audi A4. Et Schreier, lui, a pris les commandes du département de design de Kia en 2006, il a métamorphosé la gamme pour ensuite devenir un des trois présidents de Hyundai. Alors, il en ratisse large, là, M. Schreier. Là. Et Schreier, à son tour, est allé chercher un designer belge, Luc Donkervolké. Et ça, c'est une autre grosse pointure du design automobile. Parce que Donkervolké, qui travaillait lui aussi pour le groupe Volkswagen, ben, c'est à lui qu'on doit, entre autres, les Lamborghini Murcielago et Gallardo. Et ce gars-là est rendu chez Hyundai, là.
Aïe, aïe.
Ce que
j'aime de Hyundai, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Peter, c'est qu'ils lui ont laissé la latitude. T'as beau dessiner les meilleures voitures au monde, s'il l'a rendu, puis la décision finale est de ne pas le mettre en production, ça ne donne rien. Donc, ils lui ont laissé
carte
la
blanche.
Latitude voulue, carte blanche.
Absolument.
Il a mis ses voitures en production et le succès a été immédiat.
Puis l'étape suivante, ben, c'était la création d'une marque de luxe. Hein. Là, quand tu es rendu avec du monde comme ça, là, tu te dis, OK, là, on peut aller au bâton. Là. Puis les premiers essais de Hyundai n'avaient pas été très, très convaincants dans ce domaine-là. Tu te souviendras peut-être de la XG350 hein, qu'on a pu conduire là, au début des années 2000. Ça, la XG350, je trouve une autre petite parenthèse. Là. Quand j'étais allé en Corée, en 1999, à l'invitation de Hyundai, c'était pour conduire cette voiture-là. Écoute, j'avais eu des commentaires très durs pour cette voiture, parce que d'abord, c'était un veau, la finition était risible, ça se conduisait, t'avais l'impression de conduire une auto des début des années 80, là, puis on était au début des années 2000. Il faut dire qu'on avait conduit des exemplaires de pré-production, là, mais même avec des améliorations, ça demeurait une voiture médiocre. Hein? On peut pas...
Suspension molle.
Ah, c'était épouvantable. Daniel,
un flacon de gravol avec la livraison du véhicule.
C'était épouvantable. Puis qu'est-ce que tu veux? T'sais, c'est ça. Même avec des améliorations, il n'y avait rien à faire. Hein? On peut pas transformer un joueur de quatrième trio en marqueur de 50 buts. Alors, c'est un peu ça. Mais ça, bon, après ça, on a eu l'Azera, que tu as connu.
Oui.
L'Azera, déjà, c'était un peu mieux. Hein, tu sais, c'était mieux fini, puis le mécanique avait un petit peu plus de bon sens, c'était un peu plus moderne, mais le comportement routier n'était pas très, très convaincant. On appelait ça, nous autres, entre nous, on appelait ça Buick japonaise. Là. Et puis après ça, bon, là, on est arrivé avec la Genesis, la première du nom en 2008, qui était au début une Hyundai. Genesis, c'était le nom du modèle.
Exact.
Mais là, on y allait pour la première fois avec une voiture, là, luxueuse, puissante aussi. Hein? On pouvait même avoir un V8 de 5 litres là-dedans. Et puis après ça, après la Genesis, on est monté en grade encore plus. Parce que la Genesis, on était dans les berlines de luxe intermédiaires, donc disons Audi A6, BMW série 5, Mercedes classe E, avec les courses. Là, on allait vraiment une coche plus haut. Là, on allait dans les grandes berlines de luxe là, qui flirtent autour,
des
là,
matériaux riches, incroyables.
Autour du 100 000, là, t'sais, on allait vraiment dans le très haut de gamme. Là. Encore une fois, l'Equus n'a pas convaincu grand monde. Mais Hyundai pouvait prendre le risque. Pouvait dire, OK, c'est parfait, même si on n'en vend pas, c'est pas grave, on a ce qu'il faut pour... t'sais, ça va être un ballon d'essai. On va être à l'écoute de ce que les gens vont nous dire, on va écouter... Ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Puis à partir de là, ça va nous servir comme base pour travailler sur les prochains modèles. À partir de là, Genesis est devenue, depuis l'année passée, une marque à part entière. Alors la Hyundai Genesis est devenue une Genesis G80, celle qu'on connaissait déjà. Mm-hmm. Et là, on est allé une coche plus haut avec la G90 qui remplace les Equus. Et là, c'est important de dire que les deux Genesis qui composent l'ensemble de la gamme Genesis, hein, pour l'instant, c'est juste deux modèles, là. Alors, les deux Genesis sont des voitures qui ont été conçues sous l'égide, sous la gouverne de Peter Schreier. Alors là, on arrive avec un produit un peu plus sérieux, un peu plus sexy aussi, et dont les modèles précédents ont vraiment servi de laboratoire, pratiquement. Là. T'sais, ils n'en ont pas vendu, ça n'a pas été des succès commerciaux, mais chez Hyundai, on se disait, c'est pas grave, il faut s'en aller vers ça. Et l'amélioration, elle est palpable, elle est même exponentielle, je vais utiliser ce mot-là pour une deuxième fois, mais c'est à ce point. Et c'est de ça que je veux te parler dans la prochaine chronique, parce que j'ai pu conduire la Hyundai, pas la Hyundai, tu vois, je fais même le lapsus moi-même, là, mais j'ai pu conduire la Genesis G90 et...
C'est quelque chose.
J'ai été impressionné, mon cher ami. Impressionné.
Ben plus de détails un petit peu plus tard à l'émission. Merci Philippe, on se reparle tantôt. On fait une courte pause et au retour, on prend vos appels. Restez.
Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, nous voilà de retour avec Philippe Lagu. Philippe, on va parler d'une Genesis G80. C'est ton modèle haut de gamme que tu essaies. Tu nous as fait l'histoire tout à l'heure de Hyundai Genesis. On voit qu'ils sont partis de très, 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 très loin, là.
C'est le moins qu'on puisse dire. Je te fais une petite correction. C'est oui? G90 cette semaine.
Ah, c'est la G90.
Oui, la G80, inquiète-toi pas, je nous la garde. Je l'ai essayé aussi, mais cette semaine, tu sais, tant qu'à commencer, on commence fort, on y va.
Moi, j'ai roulé la G80 Sport. Là.
Oui, hein? Alors, mais tu sais, tant qu'à commencer, on commence fort tout de suite. Alors, bang, avec le haut de gamme. Mais comme tu dis... Tu sais, tu viens de dire qu'on est parti de loin. Je veux juste dire aux gens, d'ailleurs, que si vous voulez voir les photos des anciennes Hyundai sur ma page Facebook, il y en a un paquet. Elles ont été mises en ligne, comme toujours, par mon ami Germain Goyer. Et vous pouvez voir celle de la Genesis dont on va parler, la G90. Ça, vous pouvez voir un paquet de photos sur mon site, le www.philippelagu.com.
Alors, Philippe, parle-moi de ta G90.
De la G90. Donc, c'est, il faut le dire, là, Daniel, là, c'est le navire amiral, celle qui trône au sommet de la gamme Genesis. Donc, elle remplace les Kous, qui était, je le disais tantôt, un ballon d'essai, littéralement, pour Hyundai. Là. On voulait d'abord et avant tout prendre la température de l'eau, comme on dit. Là, hein? On n'avait pas d'attente. On n'avait pas d'attente chez Hyundai.
Les Kous ont fait
là.
Réfléchir toute l'industrie. Parce que lorsqu'ils ont vu cette voiture-là, ils ont dit, wow, d'abord, tu la regardais, c'était du luxe.
Oui.
Ça ressemblait un peu à une Lexus LS, tant qu'à mon intérieur-extérieur, un peu une Mercedes. Donc, on s'est inspiré à gauche, à droite au niveau du design. Les matériaux utilisés à l'intérieur, et là, on a vraiment dit dans l'industrie automobile, wow, là, Hyundai sont sérieux.
Ben oui, parce qu'avec l'Equus, même si c'était pas au niveau de la concurrence encore dans les marques des voitures de luxe, on était quand même déjà à des années-lumière des Pony et des Stellar. Tu sais. On pouvait déjà avoir une bonne idée du chemin. De tout le chemin parcouru par Hyundai. Mais la G90, là, on est vraiment là, dans les grosses ligues. Parce que c'est une grosse berline, rendue là, on peut même appeler ça une limousine, là, qui concurrence les Audi A8, BMW Série 7, Mercedes Classe S, Jaguar XJ, pour mentionner les plus connus. Puis on peut aussi ajouter la Lexus LS et même la Maserati Quattroporte. Alors, on est dans le plus ou moins 100 000 et même dans le plus de 100 000 là, dans le cas de certaines d'entre elles. Là. Alors, c'est la plus volumineuse et la plus chère des Genesis. C'est une berline qui est très élégante, là. Et d'ailleurs, je trouve que les photos ne lui rendent pas justice. Elle est encore plus... C'est vraiment une voiture qui a de la prestance, qui révolutionne rien en matière de design. C'est même, à la rigueur, assez conservateur. Mais au moins, elle a la prestance à laquelle on s'attend d'une voiture de luxe. Et elle a l'air de ce qu'elle est, c'est-à-dire d'une berline de luxe. Puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Daniel, mais son allure sobre... Ça a aussi des avantages. D'abord, ça vieillit bien, ce qui n'est pas toujours le cas des designs très audacieux. Puis ceux qui aiment adopter un profil bas, ils vont aimer ça aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui veut en mettre plein la vue, hein? Surtout au Québec, où on a donc de la misère, on a donc une relation malsaine avec l'argent, où c'est encore mal vu d'afficher sa réussite. Là, ça, c'est des vieux restants de notre passé judéo-chrétien. Mais bon, c'est encore là, ça paraît.
Ouais, hein? On peut dire conservateur, mais quand même, tu la regardes puis tu vois que c'est une voiture de luxe. Tu vois que c'est une voiture
clairement,
de gamme. Là.
Clairement. Hein? Quand je te parle de prestance, là, c'est exactement ça que je veux dire. Et en dedans, écoute, c'est somptueux. Est-ce que tu t'es assis dans la G90?
oui, absolument.
C'est quelque chose, là.
On s'est amusé avec sur une petite piste de course en plus. On a vu que
ce qui est pas nécessairement
pas fait pour
son...
ça. C'était ouais, c'est pas... ça. Elle n'avait pas d'affaires là d'ailleurs.
C'est pas son habitat naturel. Là,
c'était,
non.
Pas, c'était pas son habitat naturel. Sauf que le son du moteur est quand même impressionnant. Puis comme tu dis, là, quand tu t'assois à l'intérieur, là, tu vois vraiment que c'est une voiture haut de gamme.
Moi, j'aurais très bien pu croire que j'étais à bord d'une Lexus, d'une LS là.
Absolument.
L'examen des lieux confirme d'ailleurs ce que j'avais cru percevoir au premier coup d'œil. Là. On est vraiment dans une voiture de prestige. Là. L'odeur du cuir, toute l'expérience tactile là, avec les matériaux à bord, la qualité de ces matériaux-là, même par rapport à l'Equus, c'est une amélioration assez considérable. Là. C'est énorme là, comme pas en avant. Puis l'espace aussi. Mais ça, bon, la G90, là, c'est une limousine. Alors ça, là-dessus, on s'attend à pas moins de ça. Mais tu sais, c'est vraiment extrêmement spacieux. Les sièges sont très confortables, on s'en doute. Mais là, j'ai peut-être un petit bémol. 22 positions de réglage, là. Moi, je suis même pas parvenu à trouver la bonne. Là. Peut-être par question de morphologie. Mais en tout cas, chose certaine, si tu veux faire... Montréal, la Floride, là, t'as le temps de t'occuper en masse avant de trouver ta bonne position. Ça va te permettre de tuer le temps, là. Mais absolument. Par contre, dans une voiture de près de 100 000 $ ben, on est en droit de s'attendre à ce qu'il y a de mieux, que ce soit au chapitre du confort, de l'équipement, de l'insonorisation et de la qualité de construction. Et il faut le dire, moi, la Genesis G90 m'a impressionné sur tous les plans. Je le répète, là, c'est du calibre de Lexus. Et ça, c'est un compliment, doutez-en pas, là. Et en plus, l'ambiance, c'est plus chaleureux que dans une allemande.
Hein? Il y a une espèce effectivement, la richesse des matériaux et tout, là. Ils ont fait tout un travail, mariage des couleurs également, ouais. Avec les accents de chrome. C'est vraiment très bien réussi.
Puis je ne sais pas, quand tu as essayé ça sur une piste de course, je ne sais pas quelle version tu as eu, je ne sais pas si c'était la V6 ou la V8, parce qu'il y a deux moteurs dans la G90. Mmh. Et dans un cas comme dans l'autre, la puissance est amplement suffisante là, pour déplacer cette masse qui pèse quand même 2400 kilos. Là.
Moi, je suis tombé en amour avec, et là, je suis pas devin, là, mais je suis persuadé que Hyundai, Kia, le groupe Genesis, peu importe, on va utiliser à outrance le 3.3 biturbo de 365 chevaux. Ce moteur-là fait tout de bien.
Daniel, en communion.
Ah oui.
Parce que je pense exactement la même chose. Le V6 m'a vraiment impressionné. V6, 3,3 litres, 2 turbos. C'est quand même 365 chevaux. Mm. Et c'est 376 livres de couple. Alors que le V8 de 5 litres en a 383. Alors côté couple, là, on est presque au même niveau. Le V8 est évidemment plus puissant là, avec 420 chevaux. Mais il consomme plus aussi. Et le V6, surtout, moi, je suis comme toi, là, il m'a tellement impressionné. Il est tellement onctueux, puis tellement généreux en couple, qu'au début, tu sais, moi, quand je me suis assis dans l'auto, là, j'ai rien regardé. Là, j'ai pas ouvert le capot, j'ai pas regardé les spécifications ni rien. Quand je m'assois dans l'auto, là, puis je vais à chercher, j'essaye d'avoir aucune idée préconçue. Puis, au début, je pensais que j'avais le modèle avec le V8.
Wow.
Il suffit amplement à la tâche au point où le V8, honnêtement, m'apparaît superflu. Il est jumelé à une boîte automatique à 8 rapports qui fait un travail, mais non seulement irréprochable, mais exemplaire. Les passages, ils sont rapides. Il n'y a aucune hésitation quand on change de vitesse et ça se fait dans la plus grande douceur. Encore une fois, exactement ce à quoi on s'attend dans une voiture de luxe. Précision importante pour les acheteurs québécois, la G90 est livrable avec le système de traction intégrale, le H-Track. Et on retrouve évidemment là, toute la panoplie d'aide à la conduite, là, désormais incontournable. Régulateur de vitesse intelligent, freinage d'urgence autonome, détecteur d'angle mort, détecteur de changement de voie, phare adaptatif, affichage tête haute, comme dirait le prof Léopold Lauzon, etc., etc. Et confort et comportement, ben écoute, mon cher, tu l'as essayé, tu l'as conduit, tu l'as constaté. Le silence de roulement, Daniel.
C'est de l'insonorisation totale.
C'est quelque chose. On se croirait dans une voûte.
Ben oui, c'est mieux insonorisé que mon studio aussi.
Mais honnêtement, là, on est dans le calibre Mercedes. Là. On est dans le calibre Lexus. Là. C'est à ce niveau-là. D'ailleurs, je crois que c'est Car and Driver qui a mesuré les décibels à l'intérieur et c'était plus silencieux que dans une Mercedes classe S, ce qui n'est pas peu dire.
Ah oui, pas de misère à le croire.
L'expérience globale, écoute, moi j'ai trouvé ça plus que satisfaisant là, côté confort et je tiens à dire que j'ai passé un après-midi complet dans les bouchons de circulation de Montréal et que ça m'a fait apprécier la G90. Ça a vraiment adouci mon supplice parce que tu sais, Daniel, tant qu'être pris dans le trafic, hein, aussi bien de l'aide dans
aussi
une voiture.
Aussi bien de l'aide dans le confort.
Hein?
Aussi bien de l'aide dans le confort.
Dans une limousine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ultra confortable, ultra insonorisé. Alors, okay. Tu as l'impression d'être dans un bain flottant pris dans un bouchon de circulation. Hein? C'est un petit peu...
C'est un peu ça.
Puis le comportement, ben écoute, c'est satisfaisant ça aussi, mais bon, ça défie pas les lois de la physique non plus, et ça, t'es bien placé pour le savoir, puisque tu l'as conduit sur un circuit, là.
Oh, oui.
Et en plus, moi, celle que je conduisais avait encore ses pneus d'hiver, là, ce qui n'est pas l'idéal pour mesurer les compétences routières d'un véhicule, peu importe sa catégorie. Il y a 3 modes de conduite, intelligent, smart, en fait, là, éco ou sport, mais tu sais, même en mode sport, là, comme on disait tantôt, là, ça améliore très, très peu la chose. De toute façon, si vous voulez une conduite avec un peu plus de mordant, c'est ça, vous êtes mieux de regarder du côté d'Audi ou de Jaguar.
Ou de descendre dans la G80, que tu vas nous parler plus tard.
Dans la G80, dont je vais vous parler très bientôt. Puis on sait qu'ils s'en viennent avec une plus petite encore. Hein. Ils vont être, ils vont avoir une concurrente des BMW Série 3, Audi A4, Mercedes Classe C et compagnie. Ça a été annoncé cette semaine. Donc Genesis, qui est vraiment une marque qui est en pleine progression, mais qui s'est donné les moyens de ses ambitions. Faut pas oublier que Hyundai, maintenant, a un centre d'essai au Nürburgring. On leur reprochait souvent, justement, avec la première Genesis, avec les Kuos, on leur disait, vous faites des autos pas pires, mais vous avez pas de châssis, tu sais. Vous faites des autos bien construites, confortables et tout ça, mais côté comportement routier, c'est un peu navrant, vous êtes vraiment pas dedans. Ben là, avec le centre d'essai au Nürburgring, on vient de corriger le tir de belle façon. Ça commence à apparaître également. On l'a vu, on le perçoit aussi dans la G80. Alors, la G90, en conclusion, moi, j'ai trouvé que c'était une berline de luxe très convaincante pour un chroniqueur automobile, en tout cas. Mais le plus dur, ça va être de convaincre les acheteurs. Parce qu'il faut quand même les convaincre d'acheter, de payer 85 000 pour, à peu près, là, pour une marque qui... pour l'instant, est en déficit de prestige. Hein? Ce n'est pas encore vraiment établi. Il y en a qui disent qu'à cause de ça, Genesis va se casser la gueule. Moi, c'est drôle. Hein? Je pense exactement le contraire. Ça va prendre du temps. Mais du temps, dans l'industrie automobile, ça coûte cher. Mais justement, Hyundai est un constructeur qui a les poches profondes et qui a, je le répète, les moyens de ses ambitions. En plus, contrairement à Acura ou Infiniti, Genesis, au moins, a une vraie berline haut de gamme qui est capable de se mesurer à une Lexus LS ou aux berlines de luxe européennes et américaines. Puis si on compare des pommes avec des pommes, Daniel, 85 000 dans cet univers-là, c'est pas si cher. C'est même un bon deal. Et puis, en plus, pour terminer, ce soi-disant manque de prestige, ben ça a des bons côtés aussi, des fois. Hein? Quand tu es un entrepreneur ou un président de compagnie, puis tu viens de procéder à des mises à pied ou à une restructuration, c'est mal vu, des fois, de se promener en Mercedes ou en BM. En Genesis, ben ça passe mieux, hein? Les gens connaissent pas ça, alors.
Peut-être, peut-être.
Mais remarque, avec une G90, en même temps, t'envoies quand même un signal très clair.
Exactement.
Que tu te promènes pas à pied, là.
C'est ça.
Tu te promènes pas dans une Toyota
dans une
ou dans une Sonata. Une Sonata, ouais, c'est ça, exactement.
C'est ça. Donc, c'est un beau véhicule. Mais l'explosion va se faire avec le sport utilitaire qui s'en vient chez Genesis.
En plus.
On arrive avec un vrai beau sport utilitaire. La G70 que tu as parlé, la petite qui va concurrencer les A3, elle aussi va être sérieuse. Alors moi aussi, je suis persuadé que cette marque-là va être la marque qui va être à surveiller au cours des prochaines années avec leur plan de mise en place, prix unique, service inclus, service de concierge. Ils n'ont pas fait ça à moitié là, du côté
et
de
ça,
chez Hyundai. Ils ont
content,
fait un bon travail.
Je suis content que tu en parles hein, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs de voitures allemandes qui n'ont pas eu le service auquel ils s'attendaient en achetant une marque haut de gamme. Et ça, Genesis le sait très, très bien. Et eux, ils veulent vraiment jouer cette carte-là, comme d'ailleurs Lexus l'a fait. Alors, on suit, à mon avis, le bon exemple. Là. Puis, je suis content que tu ailles parler du VUS, hein, parce que j'ajoute, puis je termine là-dessus, le VUS dont tu parlais, il a été justement dessiné par Luc Dunkervolké. Et je répète encore une fois...
Le véhicule concept, il est près de la production, mais il est très beau.
Il est beau, tu sais, mais on parle d'un gars qui a dessiné des Lamborghini puis des Bentley, là. Alors, ils n'ont pas pris quand même un pied de céleri là, pour dessiner leur premier VUS. Là. Je pense qu'ils vont réussir. Ils se sont donné moyen de réussir, clairement.
Merci beaucoup, Philippe. Bien gentil.
C'est un plaisir, Daniel.
On s'en parle la semaine prochaine. Philippe Lagu, que vous pouvez retrouver sur philippelagu.com. On fait une courte pause et au retour, on prend vos appels jusqu'à la fin de l'émission. Promis, restez là.